sur les rapports mère-fille avec le professeur Louis Forestier et l'écrivain Guy Scarpetta.
Nous allons ce matin nous intéresser à ce que les hommes disent des relations mère-fille dans la littérature en examinant quelques textes limites. Commençons par l'écrivain qui fixe dans la deuxième moitié du XIXe siècle les liens familiaux comme des séries noires, l'auteur qui, dans les trois quarts de ses nouvelles, traite des rapports mère-fille et en dégage tous les cas de figure, Guy de Maupassant. J'ai d'ailleurs appris par vous, Louis Forestier, qui en avait établi la Pléiade, qu'en même temps que Freud, Maupassant a suivi en 1885 et 1886 les leçons in vivo que donnait Charcot à la Salpêtrière. C'est donc un auteur qui s'est documenté cliniquement sur la névrose qui orchestre le roman familial et dont les relations mère-fille sont en quelque sorte la clé, Louis Forestier.
Je dirais que le problème mère-fille tourne chez lui autour de deux grands thèmes. La mère, finalement, dans la plupart des cas présentés par Maupassant, n'est pas là, ou ne fait pas son devoir, ou ne fait pas son travail. Elle est une sorte de creux ou d'absence à quoi se heurte la fille. Le deuxième grand thème, au fond, et la deuxième grande fonction des rapports mère-fille qu'étudie Maupassant, pour lui, le rapport mère-fille est essentiellement un rapport de rivalité. La mère et la fille sont deux femmes qui très souvent se volent ou attirent le même homme. Alors c'est le fond de l'histoire de Fort comme la mort.
En réalité, il y a cette jalousie et cette concurrence parce que précisément, oui, la fille est le double de la mère. Et donc l'amant a toujours l'impression que, au fond, ce qu'il aime, c'est l'image de la mère jeune à travers la fille.
Oui. Alors, là ça ouvre des perspectives sur deux grands problèmes. Bah, un que Maupassant aborde à peine, mais qu'il aborde en prenant des précautions, parce que c'était extrêmement audacieux à l'époque, ça pose le problème de l'inceste. Car être amoureux à la fois de la fille et de la mère, comme on disait du temps de Molière, l'accusant d'avoir aimé à la fois Madeleine et Armand de Béjart, être amoureux de la mère et de la fille, c'est commettre une espèce d'inceste.
Mère-fille par personne interposée.
Voilà, par personne interposée. Absolument. Donc, ça c'est très net, on le trouve dans une nouvelle comme Monsieur Jocaste. L'autre perspective, c'est en effet par le biais de la ressemblance que vous évoquez, tous les problèmes liés au vieillissement chez Maupassant. C'est-à-dire la certitude que l'on va inéluctablement vers la mort, que la ressemblance d'un être avec sa mère souligne le vieillissement de la mère, que l'amour que l'on porte à une fille après avoir aimé sa mère souligne le vieillissement de l'amoureux, bref, qu'on est dans tout un ensemble de temps qui passe et de temps qui conduit irrémédiablement à la mort.
Il y a aussi un autre cas de figure, Louis Forestier, très intéressant chez Maupassant, qui règle d'ailleurs très très bien les rapports mère-fille, c'est qu'à un moment donné, il y a une fille qui était une espèce de doigt blanche, qui ne sait pas du tout quoi faire avec les hommes, avec la société, enfin qui est un peu niaise, il faut bien le dire, et tout d'un coup, elle va se rendre compte, par un hasard romanesque malencontreux, que, au fond, sa mère n'est pas une figure de la pureté parfaite, comme elle l'a supposé. Ce qui va... Et en réalité, ce qui est assez amusant, c'est que dans toutes ces histoires que Maupassant met en scène, c'est que c'est la mère qui déniaise la fille.
Alors là, ce qui est frappant chez Maupassant, c'est c'est que j'ai le sentiment qu'il y a ou une désinvolture, ou un dédain, ou une incapacité de la part des mères à s'occuper de l'éducation de leurs filles. Je prends l'exemple de cette nouvelle qui s'appelle l'aveu.
Oui.
L'aveu, vous rappelez la jeune, l'héroïne de l'aveu, paysanne normande, fait des économies sur le prix de la diligence. Ben, c'est beaucoup trop cher de payer la diligence pour porter les produits de la ferme au marché. Elle s'entend avec le conducteur qui accepte de ne pas la faire payer à condition que la jeune fille accepte ce que le conducteur appelle aimablement une rigolade à deux. Jeune fille qui vous appelait une rigolade à deux, donc. Et effectivement, il y a rigolade à deux qui aboutit à ceci que la jeune personne est enceinte. Sa mère le découvre, situation épouvantable. La mère, comme elle dit, passe une tournée à sa fille. Mais c'est pas au fond l'acte qui la scandalise, n'est-ce pas ? C'est au fond qu'elle n'est pas assez fait d'économie sur l'ensemble des voyages. Eh ben, lui dit rien, tant que ça se verra pas, il ne fera point payer, ça sera toujours ça de gagner. Donc une forme d'éducation qui repose sur l'argent, qui repose sur cette espèce de... d'une certaine façon.
Donc la mère est aussi en position, en quelque sorte, de mère maquerelle dans cette histoire.
À la limite, oui. Donc, dans le rapport mère-fille, je dirais qu'il n'y a même pas un manque d'éducation, il y a une sorte d'amoralité. Mais il y a aussi le rapport de séparation, la mort. La fille qui est séparée de sa mère a l'impression qu'une partie d'elle-même s'en va. Ce qui est tout à fait...
C'est un arrachement, quoi.
C'est un arrachement, mais... et c'est très bien exprimé par Annie de Guilleroy, un des personnages principaux de Fort comme la mort, qui, se trouvant en présence de la mort de sa mère, dit « Mais alors... il ne va plus rien, c'est elle qui était dépositaire d'une grande partie de moi qui m'échappe maintenant. » Alors, c'est très important parce que ça va tout à fait dans le sens d'une grande préoccupation chez Maupassant qui est celle de l'aliénation, de la perte d'une partie de sa personnalité.
Louis Forestier, ce qui est très intéressant aussi dans toutes ces histoires, c'est qu'on a l'impression que Maupassant absorbe toutes les configurations merci du passé, et encore aujourd'hui dans les romans, on vit au fond sur ces mêmes clichés, on pourrait dire, si clichés il y a. Et donc, comment est-ce que vous expliquez que Maupassant ait cette position à la fois d'absorption et de résorption de tout ce qui noue, au fond, les relations mère-fille ?
Ce que d'un côté, on peut appeler cliché, on peut aussi l'appeler d'un autre côté vérité générale et constante de rapport humain. Et par conséquent, Maupassant retrouve toute une tradition observée, je dirais peut-être pas depuis le début du genre humain, mais peu s'en faut, entre les mères et les filles. Et au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Il applique son principe, l'humble vérité. Il retrouve ce rapport mère-fille. Mais alors, ce qui est intéressant chez Maupassant, et si vous permettez, je vais profiter du rapport mère-fille pour essayer de montrer comment il s'intègre dans une préoccupation plus générale de Maupassant. Ce rapport mère-fille, c'est un rapport qui recouvre la notion de ressemblance et de vieillissement. Et ça, c'est très important, parce que quand une mère se trouve devant sa fille, qui lui ressemble, au point qu'elle a l'impression d'être devant une sorte de double, mais qu'elle a aussi l'impression que ce double qui lui ressemble lui a volé sa personnalité, on est très exactement dans le schéma du Horla. C'est-à-dire que le problème mère-fille permet à Maupassant de retrouver le schéma fondamental de l'aliénation, de la dépossession de soi, qui sera illustré avec le Horla.
Écrivain, essayiste et critique littéraire.
Dans cette histoire, je dirais du lien fondamental, merci, hein, c'est-à-dire le lien à la fois le plus fort et le plus ravageur des quatre liens, puisque entre père-fils, père-fille, mère-fils et mère-fille, c'est bien entendu le lien mère-fille qui se distingue par la conjonction de la continuité physique, biologique, directe et de l'identité, c'est-à-dire du même sexe. Bon. Donc c'est à la fois le rapport le plus fusionnel, en miroir, et donc le plus terrible, le plus ravageur, mais ça, là-dessus, les psychanalystes ont dit des tas de choses. Bon.
Très intéressante d'ailleurs.
Passionnante, mais moi je suis persuadé que le regard des écrivains, le regard des romanciers, est capable d'apporter quelque chose comme une lucidité spécifique sur la question, et notamment sur quelque chose que le discours psychanalytique en général aborde assez peu, ou très latéralement, c'est-à-dire ce qui se passe lorsque ce lien est interrompu par un homme en toute lucidité. Par exemple, si on fait quelques prélèvements ponctuels comme ça, on voit que dans les liaisons dangereuses de Laclos, Valmont, pour séduire une fille, c'est-à-dire Cécile Valange, perçoit que c'est précisément en dénouant ce lien fondamental qui l'attache à sa mère qu'il parviendra à ses fins. C'est-à-dire que c'est en dénigrant Madame de Valange, en la ridiculisant auprès de Cécile, qu'il finit par obtenir les faveurs de celle-ci. Donc il intervient pour créer cette zone d'irrespect qui va lui permettre d'arriver à ses fins. Si on se déplace un peu vers le XXe siècle, on a des interventions dans ce lien qui sont assez troublantes. Bon, y en a une qui provient d'un livre absolument magnifique de Carlos Fuentes, romancier mexicain, qui s'appelle Christophe et son œuf, et où l'un des personnages masculins, qui s'appelle Angel, a une vie sexuelle où le désir est d'une certaine manière aimanté par le vecteur du ressentiment social. C'est-à-dire qu'il y a la conjugaison chez lui d'une espèce de haine viscérale de la bourgeoisie et d'un désir des bourgeoises. Et il est attiré de cette façon-là par une petite fille modèle de la bonne bourgeoisie mexicaine qui s'appelle Penny Lopez, blonde, ce qui au Mexique est le comble d'une espèce de raffinement quasi exotique, pas bêche. Et ce qui se passe dans le roman, c'est que il est peu à peu détourné de ce désir vers la petite Penny Lopez par la mère de celle-ci, qui s'appelle Lucha, qui elle-même semble jouer à ce jeu. C'est-à-dire que il y a un moment, par exemple, où il assiste à la toilette intime de Lucha à travers une glace sans teint. Et il y a là une scène de séduction. Et Penny, la petite fille, le snobant de plus en plus, c'est sa mère Lucha qui peu à peu se met à l'attirer comme venant à sa place.
Alors c'est intéressant parce que dans le roman, enfin dans le roman classique, familial, notamment fixé par, par Maupassant, on a évidemment des hommes qui se tournent vers la fille et se, au fond se détachent de la mère pour se retourner vers la fille. On a très peu, rarement en tout cas, l'inverse.
Peut-être que cette expérience-là est finalement...
C'est une transgression,
carrément. C'est une transgression assez fondamentale. Parce que la première scène d'amour est une scène où, en connaissance de cause, Lucia, la mère, trompe sa fille avec l'amant éventuel ou virtuel de celle-ci. Hein. Ils sont en train de faire l'amour et elle a sorti les reliques de l'enfance de sa fille, des mèches de cheveux, des jouets, des dessins d'enfants, etc. Comme un facteur d'excitation. Regarde, Angel, voilà la preuve. Petite, elle était blonde. Tu vois, elle était blonde quand elle était petite. C'est faux ce que racontent les mauvaises langues. Je ne lui ai jamais oxygéné ni défrisé les cheveux. Ce sont mes ennemis qui racontent ça. Peignée blanche, elle n'a pas les cheveux crépus. Elle n'a pas de sang noir de la côte du Guerrero comme son papa. Elle tient de moi, dont le père était un honnête commerçant, émigré de Zapotlán el Grande dans le Jalisco, où les Français ont laissé une ribambelle de marmots pendant l'Empire et où tout le monde est à moitié blond. Crois-moi, Angel, chérie. Et puis, elle l'invitait à regarder sa chatte caucasienne au poil touffu, presque bouclé. Mais pour la baiser, aïe, il fallait qu'il la prenne comme une négresse en chaleur, une vraie fille des tropiques, car elle savait remuer le derrière comme la meilleure danseuse d'afro. Aïe, mais mon père, malgré tous ses efforts, n'arrivait pas à atteindre avec elle l'apogée fébrile de ma conception, ni celle de l'anticipation de son plaisir à journée avec Penny. Puis vint le moment où, avec Donna Lucia, il ne pouvait plus bander. S'il n'avait sous les yeux les boucles blondes de la petite Penny. Angel peinant à avoir l'érection nécessaire pour baiser avec Lucia, avec la mère, il est obligé de penser à la fille de la femme avec qui il fait l'amour. Bon. Et elle le sait. Et elle en joue, et elle en jouit. Et il lui dit, comme par une sorte de défi, « Je vais continuer à la baiser à travers vous. » Et elle lui répond, « Pour moi, c'est tout bénéfice, mon mignon. » Peut-être que l'écrivain contemporain qui va le plus loin dans cet éclairage-là, c'est Milan Kundera dans « L'insoutenable légèreté de l'être », où il y a, comme on le sait, une espèce de quatuor de personnages, deux personnages masculins, Thomas et Franz, deux personnages féminins, Teresa et Sabina, il y a quelque chose qui se joue entre eux, et chacun se définit en fait en fonction de sa plus ou moins grande aptitude à couper le cordon ombilical. Et c'est ça ce qui va déterminer et leur évolution et leur position politique. Et la vie sexuelle qu'ils ont, et les rapports qu'ils ont entre eux. Bon, et là, il y a une sorte de radiographie assez étonnante en ce qui concerne les personnages féminins. On peut opposer Teresa, qui est le personnage romantique, idéaliste, qui rêve à l'idylle, et Sabina, qui est le personnage libertin, pour qui rien n'est supérieur à l'amitié érotique, et pour qui la fusion amoureuse est quelque chose qu'il faut au contraire fuir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Teresa, donc le personnage romantique, elle a une mère dans le roman qui est, je dirais, naturaliste. C'est-à-dire que elle affirme que le corps est innocent, qu'il est bon. Elle rote et elle pète en public. Elle n'a aucune pudeur. Elle se promène nue dans l'appartement. Elle exalte la nudité. Et Teresa est évidemment choquée par cette espèce d'affirmation physique brutale.
Et elle se tient du côté de la pudeur.
Évidemment, se tient du côté de la pudeur, mais est amenée peu à peu, par réaction, à tout idéaliser, à tout spiritualiser, à se regarder de manière assez étrange, très longuement dans le miroir, pour essayer peu à peu d'effacer les traces de ressemblance avec sa mère, et elle est amenée à rêver de l'idylle, hein, de la grande idylle romantique. Et Kundera dit très bien que elle n'est rien d'autre, y compris dans le fait qu'elle va chercher une autre forme idéalisée, une sublimée de fusion, pour échapper à la fusion ravageuse avec sa mère. Kundera a une très belle formule, elle n'est rien d'autre que le prolongement du grand geste violent et destructeur de sa mère. Bon. Et l'autre personnage dans cet enchevêtrement qui s'oppose à Teresa, c'est Sabina, qui est un personnage donc non pas romantique mais libertin, après donc couper le cordon ombilical, mais d'une manière peut-être tellement violente qu'elle est amenée à sans cesse réitérer cette rupture. Comme si cette rupture n'était jamais acquise, d'où chez elle une véritable passion de la trahison. Et elle finit par se dire, elle qui est l'antithèse du kitsch, qui a rompu avec la Tchécoslovaquie communiste à cause du kitsch, et pas seulement à cause de la politique, qui est apte à repérer le kitsch autour d'elle et à avoir un regard extrêmement critique là-dessus, elle finit au terme d'une série de ruptures réitérées, où elle fuit, où elle va de pays en pays, d'homme en homme, etc., par se dire que finalement on n'échappe jamais au kitsch, hein, ce qui peut se traduire, on n'échappe jamais complètement à la sphère maternelle. Bon. Et ce qui est encore une fois très intéressant dans le livre de Kundera, c'est que l'indépendance ou l'affranchissement politique des personnages par rapport aux utopies de grandes communautés ou de grandes fusions est lié à leur aptitude à couper le cordon ombilical. Celui qui dit les choses les plus définitives et les plus terribles sur la question, c'est Sade.
Alors, on va prendre le livre absolu, évidemment, sur les rapports mère-fille. Livre qui d'ailleurs est dédié au rapport mère-fille.
Oui, la philosophie dans le boudoir, l'exergue de la philosophie dans le boudoir, c'est la mère en prescrira la lecture à sa fille.
Ou en proscrira la lecture à sa fille.
Au choix. Au choix. Il peut y avoir un jeu là-dessus. D'ailleurs, un jeu intéressant, parce que ça c'est un jeu qui engage le régime de crédibilité du roman. Bon, moi, je tiens ça pour un grand auteur. Genre merveilleux, c'est-à-dire un auteur qui pose comme pacte de lecture initiale que ce qui se passe et ce qui est raconté, ce qui est décrit n'est pas le réel et ne peut pas être le réel et relève même de l'irreprésentable absolu dans les cas les plus extrêmes, mais en même temps dit une vérité sur le réel. On est dans le schéma d'un roman de formation. Sauf qu'au lieu de l'insérer dans la société, comme le ferait n'importe quel roman de formation, on l'affranchit de tout lien social.
Sur ordre du père.
Sur ordre du père. Et évidemment, le dernier lien social qu'il faut dénouer, c'est le lien d'une fille à sa mère.
Alors, le père de génie confie à des éducateurs sa fille.
Confie à des éducateurs sa fille qui, étape par étape, s'affranchit de tous ses préjugés. Hein, on lui apprend... au commencement, on lui apprend l'anatomie, on lui apprend à se branler, on lui apprend l'amour, on lui apprend la sodomie, on lui apprend l'amour à plusieurs, on lui apprend les plaisirs de la cruauté, de la flagellation, etc. Bon, elle est amenée peu à peu à évacuer tous les préjugés moraux qui lui ont été inculqués au couvent. Et le dernier, alors tout ça entrecoupé, dialectiquement, de dissertations portant... disons à un point quasi paroxystique, le discours d'émancipation des Lumières. Alors, le discours d'émancipation des Lumières est fait pour créer du lien social, là, il est porté à un point d'échauffement tel que c'est tout lien social qui est interrompu. Bon. Et le plus fondamental, c'est évidemment ce lien mère-fille, puisqu'à la fin, on convoque la mère de Génie, Madame de Mistival, qui vient d'abord pimenter les plaisirs des libertins qui sont en train d'affranchir Eugénie. Donc il commence par en faire une victime, par en faire un objet, par s'amuser avec elle. Elle est évidemment effrayée de voir sa fille dans ce milieu de débauche, etc.
Elle est la reine des prudes.
Elle est la reine des prudes. Et puis, peu à peu, ils amènent Eugénie à ce qu'est l'affranchissement suprême, c'est-à-dire couper le lien avec la mère.
Ma belle petite maman sera lardée avec des mèches de soufre, auxquelles je me chargerai de mettre le feu en détail.
Eh bien, mes amis, en ma qualité de votre instituteur, moi, j'adoucis l'arrêt. Mais la différence qui va se trouver entre mon prononcé et le vôtre, c'est que vos sentences n'étaient que les effets d'une mystification mordante, au lieu que la mienne va s'exécuter. J'ai là-bas un valet muni d'un des plus beaux membres qui soit peut-être dans la nature, mais malheureusement distillant le virus et rongé d'une des plus terribles véroles qu'on ait encore vues dans le monde. Je vais le faire monter mettra son venin dans les deux conduits de la nature de cette chère et aimable dame, afin qu'aussi longtemps que dureront les impressions de cette cruelle maladie, la putain se souvienne de ne pas déranger sa fille quand elle se fera foutre.
Je crois qu'il est maintenant très essentiel que le venin qui circule dans les veines de madame ne puisse s'exhaler. En conséquence, il faut qu'Eugénie vous cause avec soin et le con et le cul, pour que l'humeur virulente, plus concentrée, moins sujette à s'évaporer, vous calcine les os plus promptement. L'excellente chose! Allons, allons les aiguilles du fil. Écartez vos cuisses, maman, que je vous couse, afin que vous ne me donniez plus ni frère ni sœur.
Là, on est dans un monde ouvertement, délibérément fantasmatique. Mais enfin, en même temps, ce fantasme-là dit une certaine vérité.
C'est-à-dire que là, Sade, visiblement, fait exploser toute origine et toute filiation possible.
C'est une manière d'interrompre toute origine, d'interrompre toute filiation et de désigner, parce qu'on peut aussi lire ça en se demandant quelle leçon en tirer pour nous dans la vie quotidienne, et non pas seulement dans l'échauffement des rêves érotiques et des fantasmes les plus criminels et les plus fous. Hein. On peut se dire que l'horizon de l'affranchissement, c'est que lorsqu'une fille est capable de coudre le con dont elle est sortie. C'est-à-dire d'arriver à l'interruption maximale de ce rapport à la fois de violence et de fascination, de ravage et de fusion, qui, logiquement, continue à exister même lorsqu'on croit avoir coupé le cordon. On peut dire que ce qu'il indique, c'est que on ne peut vraiment faire jouir une femme, qu'on soit un homme ou une femme, qu'en introduisant l'interruption maximum de son lien avec sa mère.
Chemin de la connaissance. Aujourd'hui, regard d'homme sur les rapports mère-fille avec Louis Forestier, professeur, et Guy Scarpetta, écrivain. Texte lu par Anne Kress, Émilie Trazente, Éric Herson-Macarel, groupe de réalisation Xavier Carrère, Jean-Marie Charon, Yann Lambré, Michel Mestre, Franck Lilin, Christine Goémé. Bibliographie sur franceculture.com. Vous pouvez également écouter Les chemins de la connaissance. Vos magazines aujourd'hui sur France Culture, en seconde partie de la suite dans les idées, la consultation à 20 euros, assortie de cette question, est-ce la sortie de la crise? Dans quelle école ce soir 19h30, la philosophie dans le déboire. Juste après le journal à 9h05, Continent Science, aujourd'hui les autres humains, avec le paléontologue Jean-Jacques Hublin. Excellente journée à tous, France Culture, il est 9h. Hervé Gardette, bonjour.
Bonjour. Depuis une heure, il planche sur un des trois sujets de philosophie. Les élèves de terminale de la filière générale ont entamé officiellement à 8h la session 2002 du baccalauréat. En début d'après-midi, sera au tour des séries technologiques. Les épreuves du bac professionnel ne démarquent le 24 juin. Au total, ils sont un peu moins de 629 000 candidats cette année, en légère baisse par rapport à la session 2001. Le bac n'est pas une exception française. Dans les autres pays de l'Union européenne, la fin des études secondaires est également sanctionnée par un diplôme, Polinaise Guy.
Trois grandes tendances se dessinent. Tout d'abord, les pays qui, comme la France, se basent presque exclusivement sur un examen final qui regroupe la plupart des matières étudiées en classe. C'est le cas en Autriche, aux Pays-Bas, au Portugal, en Irlande ou encore au Luxembourg. Viennent ensuite trois pays qui ont opté pour un système radicalement différent, un contrôle continu sur une ou plusieurs années. En Suède, par exemple, on prend en compte les notes des trois dernières années d'enseignement secondaire. C'est le cas aussi en Belgique et en Espagne. Enfin, il y a ceux qui pratiquent le cumul des évaluations. Ainsi, tous les petits Danois, Allemands, Grecs, Italiens ou Britanniques sont à la fois jugés sur des contrôles continus et une ultime épreuve, un examen de fin de cycle. On peut ajouter à cela une exception, la Finlande, qui ne décerne pas un mais deux certificats de fin d'études. La méthode semble être au point, car si l'on compare les chiffres de réussite, 90% des Finlandais et des Suédois achèvent avec succès leur cycle secondaire. La France est assez loin derrière, au 9e rang, et c'est le Portugal qui ferme la marche, avec à peine plus de la moitié de ces jeunes en mesure d'obtenir le bachot local.
La campagne des législatives avec le déplacement remarqué aujourd'hui de Jean-Pierre Raffarin à Tulle, en Corrèze. Il sera aux côtés de Bernadette Chirac dans une circonscription dont le député sortant est François Hollande. Le Premier ministre, qui confirmait hier par voie de communiqué son intention d'abroger le décret sur les dates de chasse aux oiseaux migrateurs, la nouvelle réglementation élargira les périodes de chasse en se fondant sur des données scientifiques, c'est ce que précise le communiqué. Réaction de colère d'Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux.
J'ai rencontré Roselyne Bachelot la semaine dernière, je n'avais pas le sentiment qu'on serait méprisé de cette manière. Maintenant, ce qui m'intéresse sont les oiseaux. On a été jusque devant le Conseil d'État à partir de données scientifiques extrêmement claires, le rapport Lefeuvre, constitué par le Muséum national d'histoire naturelle, le CNRS, les meilleurs biologistes français, et qui conclut de façon très claire qu'on ne chassera que du 1er septembre au 31 janvier. Là, ça devient un peu surréaliste, ça me paraît être l'effet d'annonce, en période électorale, c'est un peu dommage. Monsieur Raffarin s'est illustré de façon remarquable dans des dossiers d'environnement, là je trouve ça médiocre.
Voilà, un gros Bougrain du bourg. Les jurés de la cour d'assises de Paris ont condamné François Besse à 8 ans de prison hier pour une série de braquages et d'évasions commis entre 1976 et 1986. C'est un verdict clément, à la fois parce que l'avocat général avait réclamé 13 années d'emprisonnement, mais surtout parce que cette nouvelle peine a été confondue avec une précédente condamnation. Ça pourrait permettre à l'ancien bras droit de Messrine de bénéficier de la libération conditionnelle en 2007. L'élection du chef de l'État afghan devrait avoir lieu dans la journée. Le grand favori, c'est l'actuel chef du gouvernement provisoire, Hamid Karzai. Ce matin, à Kaboul, la Loya Jirga a élu son président, une étape essentielle avant la désignation du nouveau chef de l'exécutif. Et puis toujours en Afghanistan, dans la région de Gardez, un avion militaire américain s'est écrasé. Hier, il s'agirait d'un accident. 3 personnes ont été tuées. L'armée israélienne s'est retirée de Ramallah hier soir, mais elle encercle toujours la ville. Ce retrait coïncide avec la rencontre à Londres entre Tony Blair et Ariel Sharon. Le sommet de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, se termine aujourd'hui à Rome. Hier, son directeur général, Jacques Diouf, annonçait un renforcement de la coopération avec le secteur privé pour faire face à la faiblesse de l'aide publique au développement. Une déclaration qui laisse sceptique Antoine Labbé, il est spécialiste des questions agricoles.
Je ne pense pas qu'en fait, il compte vraiment sur le secteur privé pour résoudre les problèmes de la faim dans le monde. J'ai un secteur privé investi, là où il pense bénéfique.